Europe 1.
Sa parole est rare, mais elle a du poids dans la majorité et auprès du président. Richard Ferrand plaide pour une recomposition démocratique à partir des territoires. Une nouvelle vague de décentralisation pour, dit-il, remettre les citoyens au cœur de l'action publique. Le président de l'Assemblée nationale, invité d'Europe 1, entretien exclusif dans un instant.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h sur Europe 1 avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Richard Ferrand.
Bonjour.
Nos lieux communs, petit traité républicain à l'usage des démocrates, c'est un livre ambitieux parce qu'il tente de porter une réponse, votre réponse, à la crise démocratique que nous connaissons. Et ce que vous proposez, c'est de réinventer le fonctionnement de l'État à partir des territoires en rendant les collectivités, communes, départements, régions plus libres, plus responsables, plus différenciées et plus à l'écoute des citoyens. On va y venir. Mais dans les deux grandes crises que sont le mouvement des Gilets jaunes et celui contre la réforme des retraites, c'est le pouvoir central qui est en cause, pas les collectivités. Qu'est-ce qui vous fait penser que la solution peut être une nouvelle vague de décentralisation ?
Mon sentiment, il est que beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment qu'il y a d'un côté ceux qui décident et ceux qui subissent. Et je crois qu'il faut se réapproprier véritablement les choix qui sont à faire pour savoir comment on s'organise là où l'on vit. Et par conséquent, on voit bien que la parole publique aujourd'hui est extrêmement dévalorisée.
Que ce soit à Paris ou en région ?
Oui, oui. Et par conséquent, il me semble que l'État s'est agencifié, comme on dit, s'est démembré. Aujourd'hui, on ne sait plus qui parle au nom de l'État. On ne sait plus de manière claire qui est garant de l'égalité républicaine à laquelle nous sommes si attachés. Et les collectivités de leur côté, qui sont les collectivités qui agissent au plus près du quotidien, au fond, n'ont pas une capacité d'initiative suffisante. Et assez paradoxalement, on décentralise toujours par le haut et de manière uniforme. Alors que finalement, la logique voudrait, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais que ce soit du territoire que l'on parte pour savoir ce qui est utile de faire en Bretagne ou dans le Cantal ou dans l'Est de la France. Et forcément, les territoires sont divers, les situations sont diverses. Et donc, je milite pour qu'une plus grande capacité d'initiative soit donnée aux élus locaux, mais également que l'on prenne en compte ce que j'appelle la société civile engagée, c'est-à-dire les associations, les citoyens qui, sous différentes formes, sont organisés. Il faut redonner des respirations démocratiques plutôt que de s'enliser dans des dysfonctionnements sédimentés qui font qu'au bout du compte, plus personne ne comprend qui fait quoi.
Alors à propos de dysfonctionnement, avant de voir comment vous voulez libérer les territoires, vous proposez de réformer les services de l'État pour les rendre plus efficaces et cohérents. Vous citez l'exemple d'un préfet qui accorde des crédits pour rénover une école en milieu rural et d'un recteur qui, l'année d'après, fait fermer des classes de cette même école en application des directives nationales. Que proposez-vous ?
Oui, il faut que l'État parle d'une seule voix dans le territoire.
Et c'est le préfet.
Et moi, j'ai retenu le préfet parce qu'il me semble que, d'abord, il suscite le respect assez spontané, ouais, à la fois des élus, des citoyens, et que quand on a une question à poser, une réponse à obtenir de l'État, eh bien, il y ait une seule voix. Aujourd'hui, vous avez parfois des choses baroques. Vous avez l'État, donc le préfet, qui signe une convention avec l'ARS, c'est-à-dire ceux qui gèrent
la
santé dans les régions, accompagné parfois du rectorat, s'il y a un enjeu de formation d'aide-soignante, par exemple. Et puis la région, puisqu'elle finance. Ouais. Mais à la fin des fins, comment voulez-vous qu'on comprenne qui fait quoi et pourquoi on le fait ? Donc il y a une perte de sens, il y a une perte d'efficacité et sans doute une perte d'argent.
Donc un préfet qui dirigerait l'ensemble des services de l'État, finances publiques, culture, santé, éducation, qui ne dépendrait plus, dites-vous, seulement du ministère de l'Intérieur, il y aurait une compétence
interministérielle
et qui ne jouerait plus les mouches du coche, comme vous dites, auprès des collectivités. Vous voulez supprimer le contrôle de l'égalité auquel sont soumises toutes les décisions locales ?
Que l'on laisse les collectivités prendre toutes les responsabilités et ensuite, si des gens veulent protester, il y a des juridictions pour cela. Et à l'inverse, quand je dis responsabiliser, ce que moi je puis vous dire, qu'il existe aussi des élus qui parfois, au fond, n'assument pas un certain nombre de décisions qu'ils prennent et qu'ils disent, par exemple, un permis de construire en zone littorale. Bah, écoutez, moi je veux bien vous l'accorder, mais le préfet s'y oppose. Et en réalité, il y a une sorte de dilution de la responsabilité qui est nocive tout simplement pour la clarté des responsabilités et puis pour les échanges entre les citoyens et ceux qui les dirigent.
Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale qui signe nos lieux communs avec en bandeau. Un président a le droit de dire ça. C'est vous qui avez eu l'idée de ce clin d'œil, Richard Ferrand ?
C'est pas moi, mais je l'ai approuvé. Je l'ai approuvé parce que je trouvais que c'était drôle et que ça signait aussi une liberté de parole et d'action qui me sont propres.
On continue d'en parler dans un instant.
Europe 1. Le samedi sur Europe 1, vous écoutez cette arrivée cette semaine. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen.
Avec Richard Ferrand, député du Finistère, président de l'Assemblée nationale, qui dans un livre « Nos lieux communs » propose une nouvelle vague de décentralisation, mais qui ne tomberait pas d'en haut, qui partirait du terrain et qui consisterait à dire aux collectivités « Faites comme bon vous semble, servez-vous, choisissez vos compétences et regroupez-vous comme vous le souhaitez ». C'est un drôle de pari, non ?
D'abord, il faut faire confiance. Nous sommes aujourd'hui arrivés dans une société de défiance qui, à tous égards, tend les rapports. Nous le vivons tous. Donc il faut faire confiance. Mais je ne dis pas faites ce que vous voulez comme vous voulez. Ce que je dis, c'est faites un projet territorial. Dites ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et ensuite, procédez aux organisations qui conviennent. Par ailleurs, je ne souhaite pas tant, je n'ai jamais cru, en aucune matière, à un grand soir, ni même un grand soir de la décentralisation. Je crois qu'il faut être dans l'impressionnisme ou le pointillisme, c'est-à-dire donner des facultés d'organisation, le droit de faire, de prendre telle initiative, tel mode d'organisation, pour répondre aux objectifs que l'on se pose là où l'on vit, là où l'on travaille, ou aux réponses qu'il faut apporter à des questions que pose la population.
Donc une décentralisation à la carte ?
Oui. Oui, d'ailleurs, dans le programme du candidat Macron, il était question de cette notion de France à la carte. Pourquoi je dis ça concrètement ? Voyez-vous, en Bretagne, par exemple, si demain on décidait de faire une assemblée de Bretagne sans qu'il y ait les conseils départementaux, ce serait un beau débat, il y aurait ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, on s'expliquerait pourquoi. Mais en tout cas,
comme en Alsace,
la décision pourrait être prise. À l'inverse, on sait très bien que si vous allez dans le Cantal, qui est un département enclavé, qui est fort loin des lieux de décision, qui est moins pris en compte par la région, parce que Lyon est plus proche de Paris que d'Aurillac. Eh bien là, que le conseil départemental soit la principale force motrice de l'action publique, eh bien à mes yeux, ça aurait tout son sens. Donc la France est diverse. Par conséquent, il faut que celles et ceux qui habitent soit dans le Cantal, soit en Franche-Comté, soit en Bretagne, eh bien puissent se mettre autour de la table et voir quel est le mode d'organisation le plus utile, le plus pertinent.
Sans retirer uniformément une feuille aux mille feuilles, parce que vous rappelez dès le début de votre livre qu'on a le record du nombre de collectivités par habitant.
Oui, on a un record de collectivités, mais c'est notre histoire. Il ne s'agit pas soudain de vouloir la rayer d'un trait de plume. Et je crois que prendre un parti pour dire il faut que tout soit régionalisé, ou il faut que tous les départements soient supprimés, ou qu'au contraire qu'ils survivent, ça n'a aucun sens. Parce que les réalités sont diverses. Et donc il faut repenser les besoins de l'action publique. Et c'est à l'aune de ce diagnostic partagé qu'il faut donner la capacité aux habitants de ces territoires et à leurs élus de trouver l'organisation la plus adéquate.
Sur les compétences déléguées au territoire, ça va jusqu'où ? Jusqu'au code du travail, jusqu'aux normes environnementales, à la protection du littoral ?
Alors, ça, jamais. Et je le dis très clairement. Il va de soi que sur des enjeux qui sont communs, c'est là qu'on retrouve le rôle de l'État et des préfets pour y veiller, et de leurs administrations, c'est de faire en sorte qu'évidemment, tout ce qui relève de l'égalité républicaine, tout ce qui relève de l'essentiel que représente la préservation de l'environnement, évidemment, c'est la loi de la République qui doit s'imposer partout.
Et jusqu'aux limitations de vitesse ? Aux 90 à l'heure sur les routes secondaires ?
Eh bien, typiquement, une circulaire a été prise pour que l'on donne la responsabilité aux présidents de conseils départementaux de savoir quelle est la bonne limitation à mettre sur les routes départementales.
Oui, c'était pas le projet initial.
Non, et je l'avais à l'époque regretté.
Et puis, Richard Ferrand, pour réduire les inégalités entre les territoires où les écarts de moyens d'administration sont parfois très importants, vous dites, pourquoi ne pas donner une enveloppe globale à la région, à charge pour les collectivités de se mettre d'accord pour la répartition ? Ça promet de belles batailles, non ?
Moi, il me semble que sur la base d'éléments objectifs, que l'on dise, voilà pour un territoire donné, l'enveloppe que l'État accorde au territoire, ensuite faisons confiance et laissons les élus locaux dire où sont les priorités, quels sont les vrais enjeux. Et chacun se grandira en cela. Et il y aura un débat, oui, il y aura des affrontements, etc. Mais au moins, on ne pourra pas toujours avoir ce sentiment que c'est la faute à Paris, c'est la faute à l'État.
Et pour remettre le citoyen au cœur de tout cela, vous proposez des consultations locales. Sous quelle forme ?
Sous les formes qui, chaque fois, doivent être définies localement. Ce que je veux dire, c'est que c'est en réimpliquant les citoyens dans les décisions que l'on prend, d'abord que l'on partagera les complexités. C'est-à-dire que quand on va dans des réunions, même dans ma commune de Motreff, qui a 700 habitants, pour savoir comment on va faire un écolotissement, comment on va gérer l'assainissement, etc., d'abord chacun prend la mesure que rien n'est simple. Ça évite les raccourcis et aussi une forme d'agressivité, parce que la complexité, ça calme, si je puis dire, ça apaise. Ensuite, eh bien, des échanges peuvent avoir lieu, on peut décider, ça donne une indication aux élus locaux de différentes solutions sur la table, et celles qui recueillent le plus l'assentiment de la population. Donc ça peut être sous cette forme, ça peut être aussi parfois sous forme de référendum, si on le souhaite. Ça peut être des commissions extra-municipales, ça peut être des conseils de développement. Dans mon territoire du centre-ouest Bretagne, il y a toujours eu un conseil de développement qui associe les responsables associatifs, les chefs d'entreprise, les syndicats, etc., et qui définissent avec les élus ce que sont finalement les projets locaux qu'il faut mettre en haut de la pile, comment on hiérarchise les priorités. Et ensuite, quand on va chercher de l'argent auprès des autres collectivités ou auprès de l'État, eh bien, on justifie comment on a fait ces choix-là et les partenaires financent ces choix-là. Donc, c'est toujours partir du réel.
Richard Ferrand, on marque une nouvelle pause. J'ai encore quelques questions sur le sort qui peut être donné à vos propositions.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, c'est tous les samedis jusqu'à 10h sur Europe 1. La suite avec vous, Patrick Cohen.
Avec Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale qui publie aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès, Nos lieux communs, livre, je le disais, ambitieux parce qu'il propose de réinventer notre pacte démocratique et livre signé par l'un des principaux personnages de l'État et responsable de la majorité. Alors Richard Ferrand, c'est un projet, c'est un chantier à venir, c'est une injonction ?
C'est une contribution au débat public.
Oui, mais qui ne vient pas de n'importe qui.
Certes, mais dans la position qui est la mienne. Ce n'est pas parce qu'on est président de l'Assemblée nationale qu'on doit s'empêcher de réfléchir, ou du moins d'essayer. Donc, c'est ce à quoi je me suis employé, parce que ces sujets me tiennent à cœur depuis longtemps, parce que j'ai une expérience, il y en a d'autres, mais en tout cas, j'ai une expérience d'élu local et de parlementaire, et il me semblait que, par rapport au projet que va porter Mme Gourault, qui est la ministre de la cohésion des territoires.
Une par loi rapport... décentralisation et différenciation.
Voilà. Par rapport, quand je cherche des réponses à ces tensions que je vois dans notre société, à ce que, personnellement, j'identifie comme une vraie crise démocratique et de la représentation, eh bien, j'ai souhaité mettre un certain nombre de choses sur la table en partant du concret et du réel. Donc, ce que je souhaite, c'est que cela puisse peut-être créer un débat.
Oui.
Et qu'ensuite le gouvernement puisse s'en saisir. Mais oui. Ce n'est pas un projet de loi,
oui, parce qu'en
ce n'est pas une prétention.
En attendant la révolution des territoires que vous souhaitez, et puisque tout procède du chef de l'État, ce livre, vous l'avez fait lire à Emmanuel Macron ?
Bien, le jour où j'ai signé le bon à tirer, je lui ai envoyé une photocopie. Et il m'a répondu, je suis en phase, donc je considère que nous sommes en marche et nous sommes en phase.
Donc c'est un chantier lancé avec ce livre.
Bien, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'il ne restera pas lettre morte et que mes propositions, tout ou partie, pourront trouver un écho lorsque le débat viendra.
Donc il y aura une grande loi Macron des territoires, une loi Ferrand,
Une loi surtout qui donne des possibilités, qui déverrouille. Pas une loi qui dit « on a trouvé d'en haut ce qu'il faut faire partout ».
Au passage, Richard Ferrand, une autre idée dans votre livre, lancer un service civique à compter de l'âge de la retraite. Ça aussi, c'est à l'étude ?
Non, ça ne l'est pas, je ne le crois pas. Mais c'est une proposition. Pourquoi ? Parce que je suis tout de même extraordinairement frappé par le fait que beaucoup de personnes qui arrivent en retraite après la joie d'être libéré des contraintes quotidiennes du travail, au fond, aimerait avoir une utilité sociale, si je puis dire. D'ailleurs, c'est pour ça que certains s'engagent comme conseiller municipal, comme responsable associatif. Enfin, beaucoup de retraités font vivre notre tissu associatif. Moi, ce que je crois, c'est que l'on perd beaucoup lorsque on, si on n'organise pas la transmission des savoirs acquis par l'expérience professionnelle. Regardez combien de professeurs en retraite font de l'aide aux devoirs. Aller dans les Restos du Cœur, aller au Secours Populaire, ce sont toujours des retraités qui font vivre la solidarité. Et donc je me dis, il faut amplifier cette générosité et donner à la retraite précisément un contenu. Lorsque chacun le souhaite, on a aussi le droit de dire « je vais passer ma retraite à lire et à découvrir des territoires que je n'ai pas connus ». C'est une liberté. Mais nous avons tellement à apprendre de ceux qui ont une expérience. Et les jeunes générations sont toujours très attentives à ce que des anciens peuvent apporter. Et donc il faut voir dans la retraite une expression de liberté pour organiser la solidarité intergénérationnelle par le don et le partage de son expérience.
Deux questions d'actualité au président de l'Assemblée nationale, une sur la majorité, une sur l'opposition. Pour la majorité, quelle leçon tirez-vous du vote polémique sur les parents endeuillés ?
Qu'il est toujours un exercice extrêmement difficile que de légiférer, de codifier, car légiférer, ça veut dire fabriquer des textes de loi, sur des sujets qui renvoient à des drames humains. Et il y a toujours un contraste effroyable entre la douleur que vivent à peu près 4000 familles par an qui ont perdu un enfant, et sans doute que rien de plus tragique ne peut arriver dans une vie. Et ensuite, quand cela vient dans un débat parlementaire, on donne le sentiment d'être des médecins légistes, des peines et des sentiments. Et donc, si ensuite telle ou telle expression est maladroite, alors à ce moment-là, cela devient un spectacle d'apparente inhumanité. Par conséquent, je crois que sur des sujets comme ça, c'est très très en amont qu'il faut travailler avec les associations des parents concernés et qui existent, et faire en sorte que lorsqu'un texte vient en discussion, il ait été partagé, vu, et que c'est une unanimité qui doivent s'imposer. Voyez-vous, on ne peut pas opposer la froideur du travail législatif à l'émotion, oui, que représentent ces sujets-là.
Vous avez employé le mot maladroit. Vous êtes le seul dans la majorité, Richard Ferrand, à avoir cette expérience politique, 30 ans de vie publique, 40 ans de militantisme, enfin le seul avec Jean-Yves Le Drian. Vous n'avez pas le sentiment parfois d'être entouré par des amateurs ?
Non, mais franchement pas. Vous savez, on ne peut pas vouloir à la fois le renouvellement de la vie politique et ensuite dire aux nouveaux venus qu'ils manqueraient d'expérience. C'est comme quand un jeune cherche un stage, on lui dit « mais vous n'avez pas d'expérience ». Bah oui, si on lui en donne jamais, il n'en aura jamais. Non, je ne crois pas ça. Je crois que simplement ce qui se passe, et c'est facile de refaire le match après, hein. Vous savez, je ne donne de leçons à personne. Je dis simplement que quand il y a une matière humaine si douloureuse, quand il y a des sujets qui touchent à l'intime, il faut être très prudent. Et président de l'Assemblée nationale, j'aurais dû moi-même, voyant arriver cela à l'ordre du jour, crier gare, vous voyez, et je ne l'ai pas fait. Donc je prends ma part aussi.
Question sur l'opposition. 22 000 amendements déposés sur la réforme des retraites, c'est légitime, c'est soutenable ?
En tout cas, c'est constitutionnel, mais ce qui est essentiel sur un sujet comme ça, c'est de parler du fond. Ce n'est pas de dire simplement que l'on crée des barricades législatives pour empêcher le débat de fond de se dérouler. Mais c'est un droit constitutionnel. Les institutions sont faites pour aller au bout de ces débats, mais je crois surtout, vous savez, moi je fais confiance aux citoyens. Je fais confiance aux citoyens qui ont beaucoup mieux compris qu'on ne le croit ce que nous voulons faire. C'est-à-dire un système, bien sûr, un système plus juste, qui fait que chaque heure travaillée, même quand vous êtes étudiant, vous avez un job le week-end, eh bien vous cotisez aujourd'hui, mais vous cotisez pour les autres. Mais désormais, vous cotiserez aussi pour vous. Faire que les carrières hachées qui sont le lot de la vie d'aujourd'hui soient mieux prises en compte qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors, après,
je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de citoyens qui aient compris ce que vous dites et ce que vous êtes quelques-uns à dire dans la majorité, c'est-à-dire que c'est une réforme de gauche, cette réforme des retraites.
C'est une réforme redistributive, personne ne le nie. C'est une réforme qui est juste, j'en ai une conviction profonde, c'est une réforme de justice. D'autres qui sont plus attachés au statut qu'au travail veulent opposer la survie des statuts à la prise en compte du travail réel. Bon, voilà en vérité ce qui est en jeu. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons le meilleur des systèmes de retraite au monde. Ça, personne ne peut le contester.
Oui, c'est ce que dit Philippe Martinez aussi, et qui vous dit pourquoi le changer alors.
Eh bien, ce que nous voulons justement, c'est faire en sorte qu'il soit plus juste et qu'on puisse le sauvegarder. Car Ce que M. Martinez oublie de dire, c'est que les rythmes démographiques étant ce qu'ils sont, le coût des statuts divers et variés, qui ne se justifient plus aujourd'hui, les fameux régimes spéciaux, eh bien, créent de l'inégalité et créent du déséquilibre. Donc, il nous faut corriger pour plus d'égalité pour tous les Français qui travaillent, indifféremment des statuts, tout en prenant des spécificités professionnelles liées à la pénibilité, et faire en sorte qu'un système juste qui permet de vieillir bien, dignement et avec un pouvoir d'achat convenable perdure. Donc on veut à la fois sauver et rendre plus juste.
Merci Richard Ferrand d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Nos lieux communs, votre livre, vient de paraître aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès.
Merci à vous. Bonne journée.